Alors le verset qui sera un peu le tête en tête de chapitre pour ce message aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4 où il est écrit « Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Donc là, on voit que Paul est encouragé par l'attitude des Thessaloniciens et par le fait qu'ils persévèrent, c'est-à-dire qu'ils n'abandonnent pas, ils continuent, ils ont bien démarré, ils continuent de la même manière, ils persévèrent et ils continuent d'avoir la foi. Donc à cause de votre persévérance et de votre foi, mais l'autre partie est intéressante. Au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Sous-entendu que les conditions n'étaient pas favorables pour qu'ils soient persévérants et qu'ils continuent d'avoir la foi. Et il est vrai que c'est exactement ce qui se passe pour nous lorsque nous passons des moments difficiles. Alors, soyons objectifs, on utilise ce passage pour parler de nous aujourd'hui. Mais il faut ramener les choses à leur juste mesure quand même et peut-être avoir une attitude de reconnaissance. Les tribulations que vivaient et subissaient les Thessaloniciens n'ont rien à voir avec les nôtres. Je ne dis pas que la vie est facile, mais là, lorsqu'il est parlé de tribulations, c'était des familles qui étaient séparées, des gens qui mouraient au jeu du cirque, des gens qui étaient en prison, des gens qui étaient rejetés par leur famille, des gens qui perdaient leur métier. Et quand vous perdiez votre métier, il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait aucune assurance à l'époque. Donc c'était vraiment des tribulations très particulières. Et ce que nous vivons n'a rien à voir, même si elles existent. Mais néanmoins, ça attaque notre âme. Et quand je parle de tribulations, c'est pas uniquement d'ailleurs les circonstances extérieures, même si elles peuvent exister, des conflits avec autrui, conflits dans les couples, problèmes générationnels avec les enfants, un travail qui ne nous plaît pas, la santé qui est pas bonne, des problèmes financiers, des dépressions parfois aussi, des découragements, une lassitude, une fatigue. Bref, nous vivons tous des moments comme ça, ce qu'on appelle des hauts et des bas. Et parfois, on se pose la question et on dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu permets toutes ces choses? Pourquoi tu permets que je sois ainsi? Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi, au contraire, j'ai l'impression que tu es contre moi? Et c'est vrai que c'est pas facile de gérer cette contradiction apparente qui consiste à savoir que si nous vivons des tribulations, c'est que Dieu les permet. Et en même temps, nous devons espérer. Donc comment espérer au milieu des tribulations? Comment même espérer en Dieu, sachant que lui a tout pouvoir pour que rien ne se passe de mauvais dans notre vie, et pourtant il ne le fait pas. D'un côté, il est marqué que Dieu est amour, et par ailleurs, il permet des situations difficiles dans notre vie. Donc on a du mal à gérer ça. Néanmoins, la Bible nous donne des définitions, et j'appellerai ce message la doctrine des épreuves. C'est-à-dire que nous avons besoin de penser avec Dieu et de savoir pourquoi les épreuves ont lieu. Dieu n'envoie pas des épreuves pour s'amuser. Il n'envoie pas des tests pour passer le temps. Nous ne sommes pas dans un zoo avec un spectateur qui serait Dieu en train de regarder comment nous vivons. Et donc, il est important de comprendre que oui, il est possible. Et Paul en était d'une certaine manière pas émerveillé peut-être, mais en tout cas il était très encouragé par l'attitude de ses frères de Thessalonique, à savoir qu'ils vivaient des tribulations, des persécutions, et pourtant ils étaient persévérants et ils continuaient d'avoir la foi, d'avoir confiance en Dieu. Et on va voir ensemble plusieurs points qui nous expliquent en quoi les souffrances, les tribulations même, les persécutions, pourquoi elles sont permises par Dieu et à quoi elles servent. Alors, déjà pour commencer, pour être d'accord là-dessus, il faut savoir que la souffrance ou les tribulations ne sont pas forcément le résultat du péché. D'accord ? Ça peut arriver que Dieu utilise des circonstances difficiles pour nous remettre dans les dans le droit chemin, ça peut arriver. Mais rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, il est présenté à Jésus quelqu'un, et il est dit au verset 2 et 3, « Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Parce qu'il est vrai qu'être aveugle, à l'époque, ça a toujours été un drame, enfin un drame, je ne sais pas ce que peut ressentir un aveugle de naissance, mais en tout cas, c'est difficile d'être aveugle au milieu de personnes qui voient. Et la question là qui est posée, c'est est-ce que cet homme ou c'est ses parents qui ont péché, c'est-à-dire qu'ils voient dans cette difficulté, dans cette épreuve, le résultat peut-être du péché. Et Jésus répond, il dit au verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est-à-dire que Dieu va des fois utiliser des circonstances favorables qui vont être une caisse de résonance pour se glorifier, mais parfois il va utiliser les circonstances défavorables pour être une caisse de résonance et se glorifier également. Et d'ailleurs, on le voit dans la vie même de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a glorifié son Père lorsque, par exemple, il a accompli des miracles. Donc ça, c'est quelque chose de super, c'est bien. Bon, bah Dieu s'est glorifié au sein d'un miracle. Mais il s'est glorifié aussi à la croix. Il s'est glorifié aussi à Gethsémané, quand son fils lui a posé la question, « Père, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il s'est glorifié aussi, pourquoi ? Parce qu'il a montré son amour envers nous, d'une certaine manière, en abandonnant son fils, en le livrant à ceux qui le persécutaient. Donc, que ça soit dans le mystère de Jésus, durant des moments favorables ou dans des moments défavorables, Dieu était glorifié de toute manière. Et il peut en être de même dans notre vie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où Dieu se glorifie parce qu'on prie pour quelque chose et Dieu répond, alléluia, et puis parfois, on prie pour quelque chose, la situation ne change pas, mais alléluia quand même, parce que par notre attitude et notre esprit de sacrifice, Dieu va se glorifier aussi et va se manifester dans notre vie et au travers de notre vie. Donc dans les deux cas, il y a une possibilité pour Dieu de se glorifier. Et là, c'est ce qui se passait avec ce miracle, c'est-à-dire que, en l'occurrence, c'était pas à cause du péché de cette famille ou de cet individu en particulier que cette cécité existait, c'est parce que Dieu, dans sa préconnaissance et dans sa souveraineté, savait que Jésus allait le rencontrer et qu'à un moment donné, Jésus allait accomplir ce miracle. Et donc, cette difficulté était liée à la souveraineté de Dieu, et parce que, en même temps, entendons-nous bien, Dieu, il a le droit d'être adoré de toute manière. Mais il va pas forcément le faire uniquement comme ça pour montrer ses épaules. C'est aussi parce que lorsqu'il se glorifie, ça attire les gens vers lui. Des fois, ça les repousse les gens, mais aussi ça attire. Et ce qui fait qu'au travers des miracles de Jésus, par exemple, certains se sont approchés du royaume de Dieu. Donc, lorsque Dieu se glorifie, c'est pas uniquement pour montrer ses biceps, c'est pour montrer aussi qu'il existe, qu'il est miséricordieux, qu'il est saint, qu'il est puissant, qu'il est juste, etc., etc. Et donc, ça, c'est une chose qu'on doit, je dirais, mettre devant Dieu et demander à Dieu l'objectivité, parce qu'il se peut aussi qu'il y ait un péché dans notre vie qu'on ne voit pas. Parfois, on est aveugle. Et Dieu amène des situations pour que nous ouvrions les yeux. Donc, et si, a fortiori, on connaît le péché en question, repentons-nous, et peut-être que l'épreuve va diminuer ou va s'arrêter parce que ça vient de notre péché. Mais c'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi pour des raisons que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que Dieu veut se glorifier au travers de notre vie. Donc ça, c'est pour nous éviter de vivre dans la culpabilité, parce que vu le nombre d'épreuves que nous sommes amenés à vivre assez fréquemment, on est d'accord avec ça, il y aurait de quoi de culpabiliser en permanence. D'accord ? Donc, non, d'un côté, marchons droitement avec Dieu autant que faire se peut, et en même temps, acceptons les épreuves comme une source et une opportunité pour faire le bien. Autre chose aussi qu'il faut savoir, que s'agissant des épreuves, c'est que Jésus s'identifie à nous au milieu des épreuves. Alors, je suis d'accord avec vous, et c'est pareil d'ailleurs quand on discute avec quelqu'un qui est notre égal, quand on dit à quelqu'un « je te comprends », « oui, mais arrivé la même chose, je comprends ce que tu es en train de traverser », ça n'enlève pas l'épreuve. Mais on a cette assurance et ce sentiment qu'on n'est pas seul, on est compris. A fortiori avec Jésus. En Hébreu 5.8, il est dit, en Hébreu 2.18, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que Dieu connaît tout, mais la connaissance de Dieu maintenant est différente depuis la venue de Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi ? Parce que la connaissance de Dieu au travers de Jésus-Christ est une connaissance humaine et expérimentale. C'est pas simplement une connaissance « je sais tout ». Prenons un exemple, l'exemple de la médecine. Imaginons que je sois un médecin comme Dieu, je sais tout sur le corps, je connais tout, toutes les maladies, je sais comment ça fonctionne, telle douleur, c'est intensité, temps, parce que ça touche tel ou tel nerf, etc. Et ça remonte au cerveau. Je sais tout sur les maladies et les implications. Je peux comprendre ce que la personne subit par cette connaissance-là, mais c'est une compréhension qui est somme toute limitée, qui est intellectuelle ou scientifique. En revanche, le même médecin qui sait tout, soit, mais qui lui-même a telle ou telle maladie et en souffre, il a la connaissance académique, mais aussi il a une connaissance expérimentale. C'est exactement ce qui s'est passé avec Dieu maintenant, par la venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsqu'il est dit qu'il peut nous comprendre parce qu'il a été lui-même tenté en tout, il peut secourir ceux qui sont tentés, c'est-à-dire qu'il compatit complètement, d'abord en tant que Dieu parce qu'il est amour, mais en tant qu'être humain aussi, qui a été tenté lui-même en tout. Donc c'est quelqu'un qui est comme nous, à la fois il est Dieu, donc il est inatteignable, et en même temps il a été comme nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et alors, il y a une autre raison aussi qui peut nous aider à être plus doux devant les épreuves, c'est qu'il n'était pas obligé de vivre ça. D'accord ? Il l'a fait de façon volontaire. C'est que lui, la souffrance qu'il a pu vivre et les tentations qu'il a traversées durant son existence étaient un acte d'amour et non pas le résultat d'un péché ou de la malédiction du péché en général sur la terre. Et donc, il a voulu s'identifier à nous, et donc aujourd'hui il nous comprend. Et ça aussi, ça va être une source d'encouragement. Encore une fois, ça n'enlève pas l'épreuve, mais Dieu est là. Dieu est là. Une chose aussi qu'il faut savoir, s'agissant de Dieu lui-même, c'est que lui aussi est passé par des épreuves parce que le Père avait un but dans sa propre vie. Et c'est ce qu'on voit là pour le coup dans Hébreux 5.8, lorsqu'il est dit, il a été tenté bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc on voit là, dans la vie de Jésus, alors qu'il était sans péché, l'obéissance s'apprend malgré tout, même si on n'est pas pécheur apparemment, puisque Jésus, alors qu'il était sans péché, a dû apprendre l'obéissance. Et une partie de cet apprentissage s'est faite par la souffrance. Donc a fortiori pour nous. C'est-à-dire que les épreuves que nous pouvons traverser, nous apprennent à obéir. Donc vous voyez, il y a un plan dans tout ça, et il y a un plan qui inclut même la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ, puisque lui-même s'est inscrit dans ce plan en venant sur la terre. Vous savez, quand Jésus est venu, il n'est pas venu comme serait venu, dans la mythologie grecque, les demi-dieux Zeus. Vous savez, il arrive sur la terre, et Zeus, il risque rien devant les hommes. Zeus c'était un dieu. Il était plus fort que tout le monde, ou même les demi-dieux. Alors que Jésus, il était Dieu, mais il s'est dépouillé, comme tu as lu tout à l'heure en Philippiens 2, de ses prérogatives divines pour devenir quelqu'un de vraiment comme nous. Et c'est pour ça qu'il peut s'identifier, et c'est pour ça que lui aussi a dû apprendre l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc voilà, ça c'est un peu une mise à plat de savoir que ce n'est pas toujours lié à un péché, que Jésus-Christ nous comprend, que Jésus-Christ lui aussi a traversé les épreuves et a appris l'obéissance au travers de cela. Maintenant, rentrons un peu dans la signification, le sens de ces épreuves. Alors d'abord, il y a une première chose, et on voit ça dans le verset qui suit 1 Thessaloniciens chapitre 1 qui était en tête du message. 2 Thessaloniciens chapitre 1. C'est le verset 5. Rappelez-vous, verset 4, Paul dit qu'il est émerveillé par la persévérance des saints au milieu des persécutions. Et au verset 5, qu'est-ce qu'il dit ? C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est-à-dire que Dieu veut juger ou évaluer, si vous voulez, si nous sommes dignes du royaume de Dieu aujourd'hui. Je dis pas de façon ultime parce que, de toute façon, on va rentrer dans le royaume de Dieu grâce à la justice de Christ, grâce à ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, c'est facile de dire oui, le Seigneur est bon, oui, Dieu est juste, oui, Dieu sait tout, oui, j'ai confiance en Dieu, oui, j'ai la foi, et puis au moment où il y a une épreuve, il n'y a plus personne. Et donc, au travers des épreuves, Dieu veut nous rendre dignes vis-à-vis de la confession que nous faisons, et ça sert aussi des fois de baromètre. Est-ce que je suis vraiment digne du royaume? Est-ce que j'ai vraiment confiance? C'est un peu comme la confiance qu'on peut avoir dans un couple, ou dans votre église, ou dans une amitié. C'est-à-dire que c'est une chose de le dire, mais quand il y a un test et une épreuve, c'est là que ce qu'on dit va devoir être vécu, ou alors on s'aperçoit que ce que l'on vit n'est peut-être pas cohérent par rapport à ce que nous disons. Et donc ça peut nous aider parfois à se remettre en question. Un exemple, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a dit à Jésus « Jusqu'à la mort, on te suivra. » Et que s'est-il passé quelques heures après? Il a été testé, il a vécu une épreuve. Cette épreuve, c'était de se retrouver dans la cour d'une maison où une femme lui a dit « Mais toi, tu étais un de ses disciples, etc. » Et vous connaissez l'histoire, il a renié. Donc cette accusation, ce risque d'être arrêté, c'était une épreuve. Mais cette épreuve a révélé jusqu'où il était prêt d'avancer pour le royaume de Dieu. Et là, il s'est, quelque part, ça a révélé que sa foi était très limitée, donc ça lui a ouvert les yeux. Parce que la veille, il était sincère. Il n'était pas là en train de, devant tout le monde, de faire le malin. Moi, je pense que Pierre était vraiment sincère. Mais Jésus lui dit, tu sais pas ce que tu dis là. Tu verras, d'ici demain, tu vas me trahir 3 fois. Parce que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur. Et cet, entre guillemets, échec de Pierre a permis une forme d'humiliation qui l'a amené ensuite à plus s'appuyer sur Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que lorsqu'il y a le dialogue auprès du lac, vous savez, quand Jésus vient rechercher l'apôtre Pierre et qu'il lui prédit sa mort, il lui dit, il y a même une promesse qui est une source d'espoir, pas en termes de bénéfices sur cette terre, puisqu'il lui dit qu'il va être martyr. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Mais derrière cette mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. C'est avant tu allais là où tu voulais, mais un jour tu iras là où tu ne voudras pas aller. Et donc cette persécution qu'il va vivre même à la fin de sa vie va être une manière pour lui de glorifier Dieu. Vous voyez, donc Dieu a un programme, il avait un programme dans la vie de l'apôtre Pierre, tout comme il a un programme dans notre vie. Et là, en l'occurrence, pour les Thessaloniciens, de façon corporelle, ils étaient en train de passer le test correctement. C'est-à-dire que leur foi, leur confession n'était pas constituée uniquement de mots ou de belles paroles, mais de décisions qu'ils prenaient jour après jour au milieu des persécutions et des tribulations. Vous voyez ? Et donc ça glorifiait Dieu d'un côté, et eux-mêmes étaient trouvés dignes du royaume de Dieu. Rappelez-vous, c'est intéressant de parler de dignité parce que Jésus en parle en Matthieu, vous savez, même dans plusieurs passages des Écritures, lorsqu'il dit « si vous ne me suivez pas, vous n'êtes pas dignes du royaume de Dieu. Si on ne prend pas notre croix, on n'est pas dignes du royaume de Dieu. » C'est-à-dire que Dieu veut des... Vous savez que dans une armée... On a vu ça au travers de l'histoire européenne jusqu'à une histoire récente en réalité, mais avant, durant tout le Moyen-Âge et même la Renaissance, vous aviez des armées qui n'étaient pas forcément composées de sujets du roi, c'était parfois des mercenaires étrangers. Si vous prenez les guerres napoléoniennes, à la fin, il y avait tellement peu de Français à mettre sous les drapeaux parce qu'il y avait eu tellement de morts, que la grande partie de l'armée napoléonienne était faite d'étrangers. Alors c'était pas des mercenaires parce que Napoléon avait conquis l'Europe, donc ils étaient obligés, ils n'étaient pas forcément payés. Mais en tout cas, c'était pas des citoyens français. Et avant cela, sous Louis XIV ou autre, on payait des étrangers, des mercenaires. Et dans le royaume de Dieu, il peut pas y avoir de mercenaires. C'est pas j'œuvre pour Dieu si tout va bien, j'œuvre pour Dieu s'il répond à mes prières, j'œuvre pour Dieu si la vie chrétienne est telle que moi je l'entends. Non. Dieu veut tester les cœurs, il veut savoir si on est digne du royaume. Il veut une armée digne de ce nom. Donc voyons, vous savez, c'est une chose de dire Jésus-Christ a bâti son Église. Mais oui, il est en train de la bâtir, il fait ce qu'il veut. Il prend les ouvriers qu'il veut, il teste les ouvriers, il leur donne une mission, il les équipe. C'est à lui, l'Église est à lui, elle n'est pas à nous. Et notre vie, individuellement bien entendu, n'est pas à nous. Alors, une chose qui peut paraître étonnante pour le quidam qui ne connaît pas les Écritures, mais on voit aussi une chose, c'est que les épreuves, et je vais pas être trop long sur ce point-là, parce que j'en ai parlé dernièrement dans le cadre d'un autre message, mais c'est que Dieu peut susciter l'espérance et l'amour pendant les épreuves. Alors déjà, faut espérer que, en tant que chrétiens, nous vivions l'amour et l'espérance de façon générale, mais dans une âme qui a soif du Dieu vivant, les épreuves ont même renforcé cet amour et cette espérance. Et on voit ça dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5, où il est dit, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. » Vous voyez comme quoi le fait de se glorifier les afflictions, ça va souvent ensemble. « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Et rappelez-vous ce que j'avais dit il n'y a pas longtemps. Pourquoi l'affliction produit la persévérance? Parce que, prenons le cas des Thessaloniciens, ils étaient persécutés, ils avaient sans doute pas envie que ça dure. Mais ils pouvaient rien faire. Les persécutions étaient là, les gens étaient contre eux. Donc ils pouvaient pas arrêter cette affliction. Donc, soit ils trahissaient le nom de Dieu, soit ils faisaient des compromis, soit ils persévéraient. Et c'est pour ça que Dieu, des fois, amène des épreuves dans notre vie qui durent, et des épreuves dans lesquelles on ne peut pas se sortir. Et du coup, ça produit, si on veut quand même être intègre vis-à-vis de Dieu, ça produit la persévérance. On n'a pas d'autre choix. Alors que quand on a une épreuve dont on peut nous-mêmes se sortir, parfois on n'est pas persévérant. Mais quand on l'a subi, on est obligé de persévérer. Et donc, là il est dit, l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on va voir une victoire ici-bas, c'est-à-dire qu'au bout de tant de semaines, tant de mois, tant d'années, on va expérimenter la victoire. Parce que on va comprendre un jour pourquoi Dieu a permis telle ou telle chose. Et il va y avoir une victoire. Donc, de la souffrance ou de l'affliction, on passe à la persévérance. Et parce que nous persévérons, nous voyons la victoire. Si on va pas des fois jusqu'au bout de l'affliction, on ne va pas expérimenter la victoire que Dieu a pour nous. Parce que la victoire, elle ne se fera qu'après telle ou telle circonstances, un peu comme dans une guerre d'ailleurs, dans une bataille. Parfois, vous avez des batailles où tout semble perdu et vous avez envie de vous rendre. Et puis un autre va dire non, 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 on persévère. On va essayer de trouver des solutions. On garde le cap. Et parce que l'armée garde le cap, à la fin de la journée ou à la fin de l'année, j'en sais rien, ils obtiennent une victoire grâce à la persévérance, malgré les circonstances qui étaient défavorables à un instant T. Ben c'est la même chose, c'est-à-dire que Dieu va nous faire expérimenter des victoires grâce à la persévérance que nous sommes obligés d'une certaine manière à vivre durant une épreuve. Et parce qu'il y a la victoire dans l'épreuve, cette victoire, l'espérance. Pourquoi? Parce que comme on a eu une victoire, on se dit, s'il y a une autre épreuve, on sait que Dieu a été fidèle et on va continuer la prochaine fois. Et donc j'appellerais ça un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Et ensuite, il continue, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et là, mes amis, je vais être très clair et je m'adresse à moi, je m'adresse à vous. Quoi qu'il nous arrive, question, avons-nous l'amour de Dieu dans notre cœur? De quoi nous sommes remplis? D'amertume? D'interrogations qui peuvent être des fois légitimes, mais est-ce qu'il n'y a que des interrogations? Vous savez, Dieu peut produire l'amour de Dieu dans notre cœur. Simplement, il faut courber les chines, s'agenouiller, dire « Seigneur, je suis ce que je suis par ta grâce, je ne comprends pas, j'ai besoin de toi, j'en ai marre un petit peu, c'est long, mais tu es mon ami et je veux être ton ami. Je veux pas me battre contre toi. » C'est juste une question de relation. Autre chose aussi que ça produit l'épreuve, c'est que ça nous aide à avoir confiance dans le dessein de Dieu, dans son plan. Parce que le plan, nous le découvrons, nous, petit à petit. Bon, il y a un plan général qui nous est donné dans les Écritures, heureusement, mais s'agissant de notre vie à tous, là, on ne sait pas trop où on va sur cette terre, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ce qui est intéressant, c'est que par les victoires que nous vivons, et grâce aux promesses de Dieu aussi, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est dans Romains 8, 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et donc, Dieu veut nous donner une assurance là, en nous disant, par ces deux versets de Romains 8, ce que tu es en train de vivre, c'est un outil que j'utilise pour que tu ressembles à mon Fils. Ce que tu es en train de vivre, c'est un outil que j'utilise pour que tu ressembles à mon Fils. Voilà le dessein de Dieu. Ce qui fait que nous, on a tendance, prenons l'exemple de notre projet immobilier. Bon, pourquoi des fois il y a des complications, pourquoi il y a beaucoup de travail à faire, pourquoi il y a, etc., etc. Ça, c'est le projet en lui-même, ce que l'on vit là, maintenant. Et l'idée, c'est que ça réussisse, bien entendu. Mais derrière cela, Dieu a un autre plan. C'est nous façonner à l'image de son Fils. Par la patience, par les épreuves, la foi en Dieu, l'humilité, la dépendance vis-à-vis de Dieu, l'intégrité, la prière, la foi. C'est-à-dire que tout cela, c'est pas qu'un projet immobilier. C'est une sanctification progressive pour nous tous. Aussi. Vous voyez? Et donc, si on oublie ça, on se dit, mais pourquoi ça traîne? Et puis même le jour où on signera, peut-être, on va dire, mais pourquoi ça a été si long? Même là, on risque de pas être content. Mais si on se dit, non, Seigneur, tout est parfait, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui seront appelés selon ses desseins. J'ai pas plus à vous dire. Mais l'objectif, Dieu est plus intéressé par l'image de son Fils en nous que par telle ou telle réussite immobilière ou matérielle. Et c'est ça qu'on doit garder. Combien de fois on tombe un petit peu parce que on n'accepte pas la stratégie de Dieu, on n'accepte pas la vision de Dieu sur ce qu'est l'Église, ce qu'est un chrétien, un enfant de Dieu. Il y a quelque chose de plus élevé que tout. Et d'ailleurs, pour être honnête, alors ça dépend. Il y en a qui viennent à Dieu des fois pour parce qu'ils veulent que leur vie ici-bas change. Mais quand même, la plupart du temps, on vient à Dieu parce que on sent le besoin de transcendance et de vérité qui nous dépasse de loin et qui nous amène jusqu'à après notre mort. C'est ça la religion, c'est ça la vérité. Et après, une fois qu'on a rencontré ce Dieu qu'on ne pouvait pas connaître autrement que par Christ, on a tendance à oublier, je dirais, la réalité de cette vision de Dieu pour notre vie. C'est que Dieu nous donne un avenir et une espérance, et il veut nous donner une vie en abondance, mais en même temps, il nous prépare une place pour l'éternité, et c'est ce qui nous attend dans l'éternité qui l'intéresse le plus. Et ici-bas, ce qui l'intéresse, c'est que son Fils, comment dire, transpire en nous. C'est comme si, quelque part, la vieille nature pécheresse avait une odeur, mais grâce à la vie de Christ en nous, à un moment donné, on se met à transpirer autre chose. Voire même, on transpire plus. Si on prend l'exemple d'Ézéchiel, hein, rappelez-vous, où les sacrificateurs portaient une tunique de coton, de lin, pardon, pour ne pas exciter la sueur. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, il n'y a plus de sueur. La sueur est un symbole de la malédiction. Et donc quand on transpire la chair, c'est pas bon. Et Dieu veut le parfum de Christ dans notre vie. Autre chose aussi que la souffrance permet, et c'est intéressant parce que tout à l'heure je vous avais dit que Christ a souffert ici-bas, et du coup il peut s'identifier à nous. Eh bien, il y a le même processus entre nous et les autres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'identifier aux autres plus facilement parce que nous-mêmes nous aurons souffert. Nous voyons ça dans 2 Corinthiens verset 1, chapitre 1, verset 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 5. Béni Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Donc on voit que Paul était encouragé durant ses afflictions, il était consolé par Dieu. Je rappelle que le Saint-Esprit est un consolateur. Vous voyez, le Saint-Esprit ne règle pas toujours tous les problèmes, mais il console. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on vit avec Dieu, nous sommes consolés, comme nous avons aussi l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Et donc, il nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc, vous voyez, là, Paul est en train de dire aux Corinthiens, les tribulations vont servir à recevoir d'abord pour vous-même une consolation. Et grâce à cette consolation, vous allez pouvoir consoler les autres, maintenant ou plus tard. Donc vous comprenez un petit peu la stratégie de Dieu, si je devais utiliser ce mot. C'est-à-dire que nous, parfois, on est embourbés dans nos épreuves, et encore des fois, on appelle ça épreuve, alors que ce sont simplement des détails de la vie. Des fois, on grossit le trait. On dit épreuve pour des choses qui sont... Si on discutait avec des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dans la rue ou dans certaines nations, ils nous diraient « mais ce sont là vos soucis ». C'est comme ma mère avait un proverbe pas biblique mais qui était intéressant, c'est les gens qui se plaignaient, vous savez, qui râlaient tout le temps. Bon, on en voit peu de gens qui râlent, on en voit peu de gens mécontents. Mais c'est celui-là, il est fatigué d'être bien. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que parce qu'on a trop, on est fatigué d'être bien. Néanmoins, quand on a vraiment des épreuves, etc., on reçoit la consolation de Dieu et on va pouvoir consoler les autres. Et si je devais faire un sondage dans cette salle et que je dise qui aurait envie d'aider les autres ? Est-ce que vous avez envie d'aider les autres ? Est-ce que vous avez envie de servir le Seigneur en aidant les autres ? Beaucoup peut-être lèveraient la main. Mais si je posais la question, alors Dieu veut vous équiper, donc vous allez vivre des tribulations pour apprendre la consolation. Ça vous va ? Et là, on se dit... Eh oui, mais pourtant, ça doit passer par là. Parce que nous sommes limités dans notre humanité, dans notre compassion naturelle. Et puis aussi parce que des fois, on a tendance à pouvoir consoler des gens qui sont comme nous, et puis on sera peut-être étranger à d'autres situations. Ben, Dieu va élargir nos tentes en élargissant les tribulations. C'est pour ça que c'est un défi. Je veux dire, là, je place la barre très haut, je le reconnais. Mais en même temps, c'est dans les Écritures. Je peux pas vous dire autre chose. Soit on regarde là-haut, soit c'est pas la peine. Parce que si je regarde en bas, j'ai de quoi râler, j'ai de quoi me plaindre, et je peux dire à Dieu, mais pourquoi tout ça? Mais quand je commence à recevoir les pensées de Dieu, je dis, ok Seigneur, ça a du sens. Ça a du sens. Et je veux te remercier de m'avoir donné ce livre, qui me donne des définitions sur la souffrance. Alors, évidemment, c'est une petite parenthèse, je n'avais pas prévu de parler de ça. Pour la personne qui a envie de vivre pour elle-même, qui voit le christianisme comme quelque chose de loin, et puis je sers Dieu ou l'Église quand je veux, les définitions que je vais donner sont pas forcément salutaires, puisque du coup, il n'y a plus la vision pour servir les autres. Mais pour nous qui, je l'espère, voulons avancer dans nos différents ministères, et des fois, c'est pas évident de garder le cap dans un ministère, c'est pas évident de rester fidèle, c'est pas évident de prendre sur notre temps... etc., etc. Mais nous le faisons pour aider les autres. Et ça va produire en nous le parfum de Christ dont les gens ont besoin. Alors, je continuerai la prochaine fois sur ce thème, mais j'aimerais terminer sur une des dernières pensées que j'avais pour aujourd'hui. C'est que les récompenses éternelles doivent toujours l'emporter sur la souffrance. Si j'oublie les récompenses éternelles, la souffrance prend la première place, et du coup, je n'ai plus l'espérance. Mais Dieu veut nous encourager au travers de cela. En 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, Paul écrit, alors ça m'a toujours fait rire ce verset, connaissant ce qu'a vécu l'apôtre Paul, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » C'est-à-dire qu'il croit que ça va porter du fruit jusque dans l'éternité. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, c'est-à-dire les afflictions du moment, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, là dans le contexte, les épreuves, elles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Le poids éternel de gloire est éternel. Donc, mes amis, et je pense que très souvent, on voit des résultats déjà dans notre vie. On comprend pourquoi Dieu fait telle ou telle chose. Mais des fois, on va peut-être pas avoir la réponse ici-bas. Mais à minima, il y aura un poids éternel de gloire dans l'éternité lorsque nous marchons dans l'intégrité. Lorsque nous considérons nos afflictions comme légères, non pas parce qu'elles sont faciles à vivre, mais légères comparées à. Vous voyez, c'est un peu comme, imaginons que j'ai un poids à soulever, et ce poids c'est une épreuve. Ce poids c'est 100 kilos. J'arrive pas à supporter cette épreuve. Je me dis, mais Seigneur, c'est trop lourd pour moi. C'est vrai. Ça pèse. Bon, il y en a qui arrivent à soulever 100 kilos. Alors, je vais dire 200 kilos. Même 300, allez. 300 kilos. On n'arrive pas. J'arrive pas. Oui, c'est vrai. Mais regarde là. Il y a un poids éternel de gloire qui pèse, je sais pas, 50 tonnes. T'arrives à soulever ça? Non. Donc, dans les deux cas, c'est au-delà de nos forces. Mais c'est pas parce que l'épreuve est au-delà de nos forces et qu'elle pèse 300 kilos que ça prend toute la place dans notre pensée. Pourquoi ? Parce que les récompenses pèsent 50 tonnes. Et ces récompenses-là, je pouvais pas les fabriquer non plus, je peux pas les porter, elles vont m'être données gratuitement dans l'éternité. Et c'est en comparant les épreuves et le poids éternel de gloire que j'ai de l'espérance. C'est pas parce que j'arrive à soulever les épreuves que j'ai de l'espérance, toujours. Des fois, oui. Des fois, on arrive à gérer les choses, on arrive à s'en sortir rapidement. Mais parfois, ça dure. Quand quelqu'un a un cancer pendant des années, comment il sort de son cancer? Quand vous avez quelqu'un qui a un mari qui boit, comment sortir de cette situation? Quand vous avez une femme qui est rebelle en permanence, qui acariate et qui crie et que le mari lui a envie de suivre le Seigneur, comment on fait pour sortir de cette situation? Quand vous avez des enfants qui veulent pas suivre le Seigneur, qui sont rebelles et qui vous disent « Non mais toi, tu es dans une vieille relique d'église, les temps ont changé, etc. Il faut voir autrement, soyons inclusifs, etc. woke et compagnie. » Comment on fait pour réagir avec ça? Comment on fait devant tous ces défis de l'existence? Des fois, c'est trop lourd pour nous. Et donc on se dit, mais Seigneur, je peux pas soulever ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est dur. Mais il y a un poids éternel de gloire qui est beaucoup plus lourd que tes épreuves. Et fais la comparaison avec ça. Fais pas la comparaison avec toi-même, mais avec ce que moi je vais te donner dans l'éternité. Et c'est pour ça qu'il peut dire nos légères afflictions du moment. Et pourquoi elles sont légères? Pas vis-à-vis de lui-même, lui souffrait. Je veux dire, vous savez, j'ai un petit peu d'expérience maintenant. Je peux vous dire qu'en tant que berger, Paul devait souffrir de voir les Corinthiens qui le jugeaient mal, qui doutaient de lui, doutaient de son intégrité, pensaient qu'il faisait les choses de façon malicieuse. C'est pas facile pour un pasteur, un implanteur d'église comme lui, d'avoir toute une église qui se retourne contre lui en disant « Toi, t'es pas apôtre, toi, t'as fait les choses d'une mauvaise manière. » C'est pas une légère affliction en réalité. Mais pourtant, il voit ça comme... Et il y en avait d'autres afflictions. Mais il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, de la toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car ces choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Que Dieu vous bénisse.